Avant d'aller à la croix, Jésus a dit à ses apôtres, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Une belle promesse de Jésus. Je voudrais faire maintenant la lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 35. Ésaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme une narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Sur cette route, pas de lion, nulle bête féroce ne les prendra, nulle bête ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Est le titre de notre message d'aujourd'hui. Extraordinaire guérison par le serviteur de l'Éternel. Deux points. Repentons-nous. Alors, on va commencer la lecture de ce texte. Je l'ai mis à l'écran. Actes chapitre 3, la suite de la semaine dernière. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installa tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entreraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, stupéfait, accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Premier passage, on va le diviser notre chapitre 3 en trois lectures ce matin. Premier passage donc, stupéfiante guérison devant le temple de Jérusalem. Extraordinaire guérison. On connaît ces textes. On a entendu parler de guérison. On connaît peut-être des personnes qui ont été guéries par Jésus-Christ. Mais des fois, on a tendance à être un peu blasé. Alors, je vous demande cependant de bien écouter ce texte ce matin, de l'écouter ensemble. Voilà un homme qui a été délivré d'une infirmité de naissance. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais il y a des personnes qui savent ce que cela veut dire que d'avoir une infirmité de naissance, comme avait cet homme qui ne pouvait pas marcher. Françoise Pédot s'occupe de beaucoup de enfants handicapés. Elle sait ce que cela signifie que d'être infirme de naissance. De plus, à ce moment-là, l'infirmité lui rendait impossible l'accès au temple. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple. On ne rentrait pas dans le temple en étant sur un lit, en étant sur un banc, car il était resté, condamné à rester là, à la porte du temple, qui était le centre de vie sociale et de vie spirituelle de la ville et du pays, la ville de Jérusalem et du pays d'Israël. Et voilà que tout à coup, cet homme, il se remet sur ses jambes et il rentre dans les temples. Et là, qu'est-ce qu'il fait, bien sûr? Il est heureux, il est reconnaissant, il loue Dieu. Il loue Dieu. La guérison était le signe messianique par excellence. Jésus n'avait pas fait beaucoup de guérisons à Jérusalem. Il n'en est raconté que deux qui sont rapportées dans l'évangile de Jean. Et dans les autres évangiles, la dernière semaine où il va à Jérusalem, il ne fait pas de guérison. Ce n'est pas pour des guérisons qu'on avait du grief contre lui, c'était surtout à cause de son enseignement. Les signes de guérison étaient là pour souligner son caractère messianique, qu'il était vraiment le Messie, celui qui accomplissait les prophéties comme celle qu'on vient de lire en Ésaïe 35 et tant d'autres. Il apportait la guérison par compassion avec les personnes qui étaient là. Il apportait la guérison en réponse à la foi également, sans s'inquiéter des conséquences que cela pourrait avoir. Mais à Jérusalem, peu de guérison. Et voilà qu'une guérison extraordinaire se produit. Et là, les gens sont stupéfaits, ils sont bluffés. Une guérison au nom de Jésus-Christ. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, dit Pierre à la personne infirme. Et il ajoute, au nom de Jésus de Nazareth, Pierre ordonne à l'infirme de se lever en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est que Pierre avait à donner? Qu'est-ce qu'il avait à donner à cet homme? Et le nom de Jésus de Nazareth, quel est ce nom puissant qui a permis cette guérison? Et nous allons découvrir cela en lisant la suite de notre texte. Les six versets suivants, du verset 12 jusqu'au verset 18 maintenant. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, donc il voit les gens qui accourent à cause de la guérison. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus. celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui d'avis de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui est saint et juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Verset 16. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Ne me regardez pas, dit Pierre, mais regardez, ne me regardez pas. Ce n'est pas moi qui ai fait cette guérison. Pierre est clair, la guérison, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Et celui qu'il faut regarder, c'est Jésus-Christ. Pierre est conduit par le Saint-Esprit. Il est rempli de la puissance de l'Esprit-Saint pour être témoin de Jésus-Christ. Selon ce que Jésus lui-même avait dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Quand sera venu le Consolateur, avait dit Jésus, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi. Vous rendrez témoignage de moi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 15, 27. Pierre avait ce rôle d'être témoin et de pointer, et l'Esprit de Dieu fait la même chose et nous devons faire la même chose toujours et en toute chose, pointer les regards vers Jésus-Christ. Verset 12, ne me regardez pas. Verset 13, regardez le serviteur de l'Éternel. Il emploie cette formule. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos ancêtres. Et cette phrase est très particulière. Parce que c'est la phrase avec laquelle Dieu s'est présenté à Moïse dans le désert. Quand il y avait ce brûlant, Moïse était attiré par ce feu qui brûlait sans arrêt. Il s'est approché et là, il a entendu cette voix qui lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos ancêtres. » Jésus est glorifié en tant que serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, c'est le titre que portait Moïse. En Nombre chapitre 12, versets 6 à 8, il y avait eu un problème là avec le petit frère Aaron, le petit frère de Moïse, et la grande sœur Marie Myriam, qui était devenue raciste tout à coup. Et là, Dieu fait une mise à jour des pendules. Il remet les pendules à l'heure, comme on dit. Et il dit ceci, Nombre 12, versets 6 à 8, à propos de Moïse. Écoutez bien mes paroles. Écoutons bien ce matin. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Deutéronome 34, 10, 12, suite à la mort de Moïse, nous lisons ceci. Il n'est pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé. Pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à main forte sous les yeux d'Israël. Autrement dit, par rapport à ce texte et à ces paroles que cite Pierre en disant, désignant Jésus-Christ comme le serviteur de l'Éternel, glorifié par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des ancêtres, autrement dit, il désigne Jésus-Christ comme supérieur à Moïse, comme supérieur à Moïse. Si Moïse a délivré le peuple de l'esclavage d'Égypte et a présenté la loi de Dieu au peuple, Jésus a délivré le peuple de l'esclavage du péché et il a présenté la grâce de Dieu, comme on va le découvrir un petit peu plus loin. Le serviteur Moïse, Jésus-Christ, est le serviteur de l'Éternel qui est supérieur à Moïse. Versets 14 et 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Ce n'est pas seulement qu'un nouveau Moïse que le peuple a mis à mort. Ce n'est pas seulement le nouveau Moïse que le peuple a mis à mort. Pierre le qualifie ici du prince de la vie, l'initiateur de la vie. Jean parle de ceci dans son prologue. Toute chose a été faite par la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Prince de la vie, aussi parce qu'il a été relevé de la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Vous avez fait mourir le prince de la vie, verset 14 et verset 15, ici à l'écran sous vos yeux. Verset 16, c'est par la foi dans le nom de Jésus que la guérison s'est produite. Voilà qui est Jésus de Nazareth, le Messie, plus grand que Moïse, le prince de la vie. Vous l'avez mis à mort. Et donc, si cet homme est ressuscité ici, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait aucune résurrection possible dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit vivant pour qu'en son nom, un malade puisse être guéri. La guérison au nom de Jésus-Christ témoigne que Jésus-Christ est vivant. Alors, qu'est-ce que Pierre, verset 16, il précise ici, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi l'infirme, comme vous voyez. C'est par la foi en son nom. Et donc, ce que Pierre avait et qu'il a pu donner à cette personne infirme, c'est sa foi dans le nom de Jésus-Christ. Le prince de la vie. Celui qui peut tout, qui peut même redonner la vie aux morts. C'est la foi que Pierre avait et c'est la foi qu'il a voulu donner à cette personne infirme. Ce qu'il avait, il avait la foi en Jésus. C'est un précieux trésor et ce précieux trésor, il se partage, il se distribue. Verset 16. La suite de notre texte. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Verset 22, Moïse a dit en effet, le Seigneur, votre Dieu, fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes lui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs et ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur, Jésus. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. En conséquence, donc, maintenant, le peuple juif doit se repentir. Versets 17 et 18, Dieu avait prévu la souffrance et la mort de son Messie, son Fils bien-aimé. Nous avons vu que dans les chapitres 1, 2, déjà, Pierre nous parle à plusieurs reprises et avec une immense facilité de ce qui semble une contradiction. À la fois, Dieu avait prévu la mort de Jésus-Christ à la croix et à la fois, les hommes sont responsables de cette mort. La crucifixion de Jésus était dans le plan de Dieu et pourtant, les hommes en sont responsables. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre cela. Pour Pierre, cela semble quelque chose qui est tellement évident. Il est rempli du Saint-Esprit. Il faut accepter ce qu'il dit. Et là, en plus, pour encore enrichir la chose ou la compliquer, de la façon dont on le voit, il précise ici, vous avez fait cela, mais vous avez agi par ignorance. Vous avez agi par ignorance. Versets 19 et 21, repentez-vous, convertissez-vous. Avec le don du Saint-Esprit, nous sommes entrés, on avait vu ça il y a une paire de semaines, nous sommes entrés dans les derniers temps qu'a prophétisé Joël. C'était la première partie du chapitre 2. La venue de les jours de l'Éternel avec la punition des méchants et la bénédiction définitive d'Israël, ces temps de rafraîchissement dont on a lu une prophétie en lisant Ésaïe 35 au début de ce message. La venue du jour de l'Éternel donc est suspendue à la repentance du peuple juif. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes. Repentez-vous, convertissez-vous, versets 22 à 24, c'est quelque chose de très sérieux. Pierre cite Deutéronome 18, 15. Et là, il est écrit, attention, vous m'entendez, vous êtes devant un choix déterminant. La parole de Dieu est claire. Soit on croit en Jésus-Christ, soit on est retranché du peuple d'Israël. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Il n'y avait pas de peut-être, je sais pas, un jour peut-être, je vais y réfléchir. Il n'y avait que deux possibilités. Croire en Jésus-Christ, le nouveau Moïse, ou le nouveau prophète qu'avait prédit Moïse, ou croire, ou ne pas y croire, et être retranché du peuple. C'est très sérieux. Il n'y a aucune place pour la neutralité dans cet enfer. Et vraiment, Pierre met ses auditeurs, comme on dit, au pied du mur. Maintenant, il faut savoir. Maintenant, il faut croire et il faut se repentir. Versets 25 et 26. Vous êtes les héritiers des prophètes de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Et il ajoute verset 26, c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Il a fait surgir son serviteur. Le serviteur de l'Éternel est le, je l'ai appelé comme ça, le liquidateur du mal. Celui qui va liquider le mal dans l'univers. Rien moins que ça. il y a quatre chants dans le livre d'Ésaïe qui parlent du serviteur de l'Éternel. Je vous laisserai les chercher. Elles sont au chapitre 42, au chapitre 49, au chapitre 50 pour les trois premiers. Et le dernier est fin 52, début 53, on va le lire. Le dernier chant parle d'une façon merveilleuse de l'expiation des péchés que Jésus a réalisés. Et on va lire ce dernier chant du serviteur de l'Éternel. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Il prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. De même, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup le peuple un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait été point raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé, et nous avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, le serviteur de l'Éternel. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse, par le châtiment, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de briser son serviteur par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses louanges, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour des coupables. Je vous invite à rechercher Ésaïe 42, 49, 50, à chercher dans ces passages les trois autres chants du serviteur de l'Éternel. Regardez, il parle tellement bien de l'expiation, mais il parle aussi de plus que cela. Au verset 53, j'ai insisté. Il verra, une postérité prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mieux que Moïse, Jésus est le bon berger qui conduit son peuple. Mieux que Moïse. Il était impossible à Moïse de s'occuper de tout. Mais Jésus prend soin de chacune de ses brebis individuellement. Individuellement, il prend soin de chacun de ses enfants. C'était impossible à Moïse. Salomon et Zorobabel ont construit un temple de pierre qui depuis ont été démolis. Jésus bâtit son église avec des pierres vivantes qui resteront vivantes pour toujours. Je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts n'auront pas le dernier mot. Jésus-Christ est le grand serviteur de l'Éternel. Conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé après? On va lire juste les premiers versets, ça appartiendra au message de la semaine prochaine. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant, les gardes du temple, les sadducéens. Ils y étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent, comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. L'Église continue de grandir, mais la nation juive n'est pas disposée encore à reconnaître en Jésus son Sauveur. Alors c'est une histoire de juifs un petit peu là qu'on a ce matin ce texte. Qu'ai-je à voir avec moi, avec toute cette histoire qui suis maintenant placée 2000 ans après? En quoi suis-je concerné, moi qui ne suis pas juif? Le peuple juif doit en effet se convertir. De la repentance du peuple juif en tant que nation dépend la venue du jugement des méchants, la venue des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, où la justice habitera. On dit pourquoi Jésus tarde tant, pourquoi on attend toujours sa venue. J'ai trois réponses à vous proposer. Premièrement, on a vu que les temps de Dieu ne sont pas les temps de l'homme. Jésus-Christ est venu 2000 ans après la promesse qui a été faite à Abraham. Il s'est écoulé 2000 ans. 2000 ans. Les temps de Dieu ne sont pas les temps de l'homme. Dieu ne tarde pas, il patiente. L'apôtre Paul, dans Romains 11, précise que quand le nombre des non-croyants sera, des non-juifs sera converti, sera complet, alors le peuple, la nation juive, reconnaîtra massivement Jésus comme le Messie. Et les temps de rafraîchissement viendront à ce moment-là. Troisièmement, souvenons-nous du commandement de Jésus-Christ. Ce n'est pas à vous de savoir le jour et l'heure, mais vous recevrez une présence, une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. L'Église a un rôle à jouer pour que le Seigneur puisse revenir, être ses témoins et annoncer le nom de Jésus partout. Donc on peut prier pour le peuple juif, bien entendu, pour qu'il reconnaisse son Messie, et on peut évangéliser tout le monde. Je pense que si un jour on est placé devant la situation où on a une personne de confession juive, je pense que ces textes sont une bonne façon de parler du Messie Jésus, le Messie envoyé premièrement au peuple juif. Le peuple juif va se convertir, d'accord. Une question importante se pose. Vous avez crucifié Jésus. Est-ce que vous et moi avons une responsabilité aussi dans la mort de Jésus? La prédication de l'Évangile amène parfois certaines réactions, comme les Juifs ont tué le prince de la vie. Ils sont mauvais. Ce sont eux. Ils ont tué Jésus. Ils ont tué le prince de la vie. Attention. Attention avec ce raisonnement qui est faux. On a vu que premièrement, cela faisait partie du plan de Dieu. Que deuxièmement, ils étaient complètement aveugles de ce qui se passait. Et troisièmement, si eux, qui étaient proches de Dieu, ont été trouvés coupables, à combien plus forte raison les païens, loin de Dieu, le sont aussi? À combien plus forte raison? Quatrièmement, le serviteur de l'Éternel a aussi une mission auprès des non-juifs. Et on découvre cela très bien dans les trois premiers chants des serviteurs de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe. Donc, tous coupables, mais aussi tous justifiables par le sang de Jésus-Christ. Oui, je suis responsable de ce qui s'est passé à Golgotha. Vous êtes responsable aussi de la mort du serviteur de l'Éternel, du prince de la vie, responsable de la mort de celui dont qui tient cette vie à laquelle nous aspirons tous. Alors, que nous faut-il faire ? Il faut nous repentir. Il faut nous repentir. C'est pas compliqué. J'ai une anecdote personnelle. Tous les mois, depuis, ça fait 6 mois, tous les mois, j'ai un conflit avec Jackie. Ça dure quelques jours. Mais il y a, tous les mois, ça revient, ce conflit. Et ce mois-ci, j'étais en train d'écouter un très beau chant qui parle de la crucifixion de Jésus. Et là, j'ai réalisé, pendant que j'étais dans ce conflit, j'ai réalisé Jésus-Christ à l'agonie, sur la croix. Ça fait réfléchir. Arrêtez tout de suite. Il faut se repentir. Se repentir, c'est changer de direction, changer de façon de penser. Arrêtez. Prendre une autre direction, c'est pas la bonne direction. Quand on pêche, c'est pour conséquence l'agonie de Jésus-Christ à la croix. Rien de moins que ça. Et si nous l'aimons, cette pensée est bien sûr insupportable. C'est pourquoi nous devons nous repentir. J'ai préparé un chant qu'on va écouter ensemble. C'est un chant d'appel qui nous met en situation d'être à la place de Pilate.